Alors, je redis la question pour la caméra. Vous dites, mais au fond, est-ce qu'il y a une variabilité, intra-variabilité, c'est-à-dire que on verrait des familles modifier leur comportement en cours de route? Ah, parce que ça existe. Alors, des études longitudinales, j'en connais pas. Cela dit, si on observe la différence entre la première étude dont je parle, 1995, et celle dont j'ai parlé, 2011, on voit que l'intérêt pour la variance intra-population, elle est récente, puisque la deuxième étude ne s'intéresse qu'aux familles de milieu populaire et montre comment à l'intérieur de ces familles, il y a une variance. Mais ce que montre aussi cette étude, c'est pour ça que je dis ça, c'est que ces pratiques changent au fil du temps. C'est-à-dire que certains parents modifient leur comportement au fil du développement de l'enfant. C'est-à-dire que quand ils sont petits, il y a peu d'usage du langage et de plus en plus à mesure que les enfants grandissent. Et inversement, moins de pratiques langagières à mesure que les enfants grandissent. Ça, c'est l'étude dont je disais, je vous l'envoie si elle vous intéresse, qui est en anglais. En revanche, je dirais que le fait que les familles soient changées d'un point de vue longitudinal, ça, j'ai pas d'étude. Je sais pas. Mais vos observations me font dire que vous avez raison. C'est-à-dire que le contact avec les maîtresses d'école, toutes les actions qui sont faites à destination des parents, je vois pas pourquoi il y aurait pas d'effet de ces pratiques-là. Effet média, effectivement. Tout à fait. Vous aviez une question, monsieur ? Alors, j'avance. Du côté des pratiques d'enseignement. Donc, j'ai parlé des pratiques parentales, je vais aller sur les pratiques d'enseignement. Je vais commencer par dire exactement la même chose que ce que je viens de dire en conclusion sur les familles de milieu populaire. J'en discutais à la pause à l'instant, c'est avec Marie-Odile, c'est-à-dire que c'est très important pour moi que les enseignants soient conscients qu'un certain nombre d'élèves n'arrivent pas tout préfabriqué dans leur classe et en même temps leur dire attention à tous les enfants de telle catégorie sont, justement parce qu'il y a une grande variance et donc ça évite des erreurs. Je vais raconter une de mes erreurs magnifiques quand j'étais instite en maternelle. Je donnais déjà des cours à l'université d'Aix-Marseille sur cette question-là en disant attention à ces stéréotypes, aux images que vous attachez aux gens, parce que très souvent on se trompe et donc avant de leur plaquer tout un tas de stéréotypes, commencez par leur parler. Le lendemain de ce cours-là, une mère d'élève de ma classe que j'avais jamais vue et pour cause vient me voir et me dit, et je vais l'imiter, Nicolas faire beaucoup cauchemar ce moment, je m'inquiète beaucoup pour Nicolas, comment, qu'est-ce que je peux faire? Et moi je réponds, en France il y a des maisons où on peut aller pour faire parler les enfants, je parle comme ça, hein? Et la dame me répond, oui je sais, je suis pédopsychiatre, je voudrais savoir où est le CMPP le plus proche. Et j'avais fait le cours la veille, hein. Donc voilà, personne n'est à l'abri de ces stéréotypes, de ces choses que moi-même, j'ai été la première. Alors, du côté des pratiques d'enseignement, on trouve les mêmes différences de pratiques éducatives A et B dans les pratiques d'enseignement. Autrement dit, il y a la même variabilité inter-intra-métier, c'est-à-dire qu'on voit comment certains enseignants sont plutôt guidés par la réussite, guident plutôt les élèves vers la réussite, quand d'autres guident plutôt vers la compréhension. Voilà, c'est ce que je dis. Et des différences de pratiques qui seront à terme productrices de différenciation, puis de difficultés. Autrement dit, certains vont s'adapter au niveau initial de l'enfant en comprenant que pour celui-là, il y a besoin de travailler plus la compréhension, etc. Pour d'autres, pas. Et on va voir comment ces pratiques vont être à l'origine de différenciation, de différences, puis à l'origine de difficultés scolaires, puisque l'école ne fera pas mieux que ce que les parents auront fait chez eux. Encore une fois, ici, on est obligé de raisonner en termes de normes et en termes de qu'est-ce qui est requis, attendu à l'école. Si c'est bien l'autorégulation qui est requise, si on estime que c'est bien cette compétence qui va faire la différence, alors il importe que les enseignants soient attentifs à apprendre aux élèves ces compétences qui sous-tendent l'autorégulation. Et je redis que pour moi, l'autorégulation des apprentissages est sous-tendue par la maîtrise de connaissances spécifiques, maîtrise de compétences relativement général. Donc sur ces deux versants-là, il me semble qu'il y a à mettre vraiment l'emphase en formation pour inciter les enseignants à se dire que pour certains élèves au moins, leur présence est cruciale compte tenu du fait que chez eux, ces enfants n'ont pas acquis ces comportements qui vont faire la différence à l'école. Je reprends ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. Ces compétences sont requises à la maternelle, certes, vont l'être en primaire, vont l'être au collège, au lycée et à l'université. Et si personne ne prend en charge cet enseignement de comportement autorégulé, eh bien certains vont être très vite mis en difficulté puisque c'est une compétence attendue par les enseignants. Alors, concernant le discours pédagogique, j'emprunte à Elisabeth Bautier ce qu'elle conclut dans l'article qu'elle a, dans le chapitre qu'elle a publié dans le livre dont je parlais tout à l'heure, édité par Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon, Construction des inégalités scolaires. Et voilà ce que conclut Elisabeth Bautier. Le paradoxe se situe dans la construction au quotidien de la classe, d'un discours horizontal et de situations particularistes, concrètes, à traiter matériellement dans un oral de l'oralité ordinaire. Elle poursuit en disant « L'accompagnement linguistique et langagier, qui va jusqu'à rendre la distinction écrite et orale opaque pour les élèves, une langue de communication quotidienne qui véhicule le partage des références et des expériences, l'utilisation de la connivence linguistique et de la familiarité de tous avec la langue écrite vient sans doute de la réduction de l'écart entre cet oral ordinaire et le langage standard du fait de la scolarisation massive et des médias. » On retrouve les médias. Ce que veut dire Elisabeth Bautier, ce qu'elle conclut de ses observations dans les classes de maternelle, c'est que le langage des enseignantes de maternelle aujourd'hui, selon elle, s'apparente plutôt à un langage du quotidien, peu en lien avec le langage qui va être à l'œuvre, à l'écrit. Et que pour certains élèves, le fait même que les enseignantes parlent comme on parle, et peu en lien avec l'écrit, va mettre un certain nombre d'élèves en difficulté, puisqu'ils vont trouver dans l'écrit du lexique, des formes syntaxiques qui leur sont étrangères, et qu'ils n'entendront ni chez eux, ni à l'école. Voilà. Donc, je n'ai pas fait moi-même d'études du langage. Je rapporte les propos de Bautier. Des constats communs et récurrents des pratiques différenciatrices, et là, je fais une espèce de revue de littérature autour des pratiques d'école maternelle, et je dirais que, quand on étudie la littérature, on observe ceci, que dans beaucoup de classes, les compétences qui sont requises à et par l'école sont peu ou ne sont pas enseignées. C'est-à-dire qu'on pense acquises par tous des compétences qui, de fait, ne le sont que par quelques-uns. Et dans le domaine de la confiance phonologique, par exemple, on en a vu de très jolis exemples. Par exemple, on a vu des enseignants disant « Moi, les miens, ils savent. » Et quand on testait les élèves, on voyait que le gros de la classe était compétent quand il restait un certain nombre d'élèves qui étaient totalement démunis dans le domaine. Je dis « pas peu ou pas enseigner ». Des choses qui fonctionnent à l'évidence, on pense que tous les élèves savent, et quand on va évaluer, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. On voit aussi des compétences qui sont enseignées à un moment donné, qui ne le sont plus par la suite, alors même qu'un certain nombre d'élèves n'ont pas encore acquis ces compétences. Des tâches proposées qui se révèlent trop peu cadrantes pour conduire tous les élèves à l'apprentissage. Et là, je sais que vous en avez un peu discuté au cours des deux dernières journées, des tâches par exemple papier-crayon, des tâches de photocopie, où l'élève est un peu laissé libre de faire ce qu'il veut et comme il veut, et où on va faire un contrôle par le résultat, c'est-à-dire non, c'est pas tout à fait ça, retourne à ta place et termine, non, c'est pas tout à fait ça, retourne à ta place et termine. Donc l'enfant va faire des allers-retours. Et il se trouve, et je vais donner des exemples par la suite, il se trouve que, oui, l'élève au bout de ses interactions, de ses échanges, va effectivement terminer par la réussite, mais va peu avoir modifié sa manière de traiter la tâche. Des activités intellectuelles trop peu régulées, trop peu étayées, c'est-à-dire qu'on compte sur lui pour comprendre et résoudre quand il faudrait un peu amorcer la pompe, un discours régulateur versus un discours instructeur, c'est-à-dire qu'on voit que dans beaucoup de classes, on régule sur le résultat et on instruit peu. Vous pouvez m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord. Un cadrage assez faible. Et là, je reprends les travaux de Reseda et d'Escol, qui montrent qu'il y a un cadrage assez faible, une pédagogie relativement invisible concernant le discours, c'est toujours Bautier, et un cadrage fort ou trop fort pour les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Et on voit comment les uns sont plutôt guidés, je l'ai dit tout à l'heure, autour du fonctionnement intellectuel, quand les autres sont plutôt guidés autour de la réussite. Je reprends mon petit schéma et je reviens sur les facteurs personnels des élèves. Je reviens sur Surdeau qui interroge les enseignants et qui leur demande, selon vous, la grande difficulté scolaire sur les origines serait plutôt imputable à. Et on voit que serait plutôt imputable à l'environnement dans lequel évolue l'enfant, 69%, à l'organisation du système scolaire, 16%, à l'élève en tant qu'individu, 11%. Autrement dit, parmi les... Donc, évidemment, si on prend la définition de l'environnement comme je la prends, c'est-à-dire environnement social et scolaire, on ne peut que se réjouir de ce résultat. Malheureusement, chez Do, l'environnement, c'est l'environnement familial uniquement. Et je m'alerte, pour ne pas dire je m'agace, de ce que les enseignants répondent ça comme s'ils étaient eux-mêmes dédouanés des origines de la grande difficulté scolaire. On est à l'école primaire. Comme si, au fond, c'était les familles qui étaient responsables des causes de la grande difficulté scolaire. J'espère que vous avez compris depuis le début de cette matinée que je pense que l'école a sa part à jouer, et tant mieux, parce que si elle ne l'a pas, si c'est bien l'environnement familial, alors l'école n'a pas les moyens de réduire les inégalités. Et je suis convaincue que l'école a les moyens de réduire les inégalités. Donc pour moi, il faut associer à l'environnement dans lequel évolue l'enfant l'école. Ce n'est pas le cas dans ce sondage. Et quand on regarde, quand on les interroge sur les causes imputables à l'environnement, on trouve l'absence d'intérêt des familles pour le travail des élèves, la pauvreté de l'environnement culturel ou linguistique, les problèmes familiaux, les conditions économiques défavorables. Certes, évidemment que tout ça va jouer, mais il manque à se donner tout ce qui touche aux pratiques éducatives de l'école. Ça va, je passe. Et domaine dans lequel l'enseignant dit avoir besoin d'aide pour être plus efficace, si on est cohérent avec ce qui précède, on dit qu'il faut former les familles. Vous êtes d'accord? Bon, c'est pas cohérent. Élaboration de réponses adaptées aux besoins des élèves, l'ajustement de ces pratiques d'enseignement, vous voyez que là, on est d'abord sur l'enfant qui est responsable, et donc c'est à lui qu'il faut s'adapter, ce qui n'est pas faux, puis l'ajustement de ces pratiques d'enseignement, vous voyez que c'est cité beaucoup en dessous. Mise en œuvre des programmes d'enseignement, 4%. Interprétation des résultats de l'évaluation des élèves, 3%. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça, vraiment, c'est pour moi, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça, on pourra en reparler, mais le fait qu'il soit que 3% à penser ça, je suis assez contente. Alors, puisqu'ils disent qu'il faut être capable d'élaborer des réponses adaptées aux besoins des élèves, alors il y a besoin de connaître les besoins des élèves. Et là, je ne suis plus chez les enfants des familles, mais bien sur les élèves de l'école. Ça va? La bascule? Je continue. Autrement dit, si on veut pouvoir agir sur les besoins des élèves, encore faut-il les connaître pour voir quels sont leurs besoins, pour voir quels sont les obstacles et quels sont les facilitateurs pour éviter la situation de handicap scolaire. Les problèmes de comportement, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi c'est là, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la diapo. Bon, donc j'ai parlé tout à l'heure, j'y reviens, sur le manque d'attention. Et j'ajoute ça. Je dis tout à l'heure que bien souvent, c'est un problème de compréhension. Et des élèves qui sont placés dans une situation hors de portée de leur prise de conscience. Comme ils n'arrivent pas à se centrer sur l'activité, ils font autre chose, ils s'agitent. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Le pas du tout est intéressant. On voit certains élèves qui, très vite, ont compris qu'il fallait surtout pas s'agiter, pas montrer qu'on était en difficulté. Donc pour moi, le fait qu'ils ne s'agitent pas n'est pas gage de compréhension. Et donc ils appellent l'enseignant à contrôler leur attention et ou leur comportement. Donc, pour moi, le manque de connaissances, de compétences et de stratégies entraîne des difficultés de compréhension qui se payent toujours par une demande accrue de contrôle externe, une exacerbation de la dépendance à l'égard de l'adulte. Autrement dit, ils ne comprennent pas, donc ils demandent le contrôle, et ils vont obtenir exactement le même type de contrôle que celui qu'ils obtenaient dans leur famille, contrôle externe. Et vous voyez comment ces difficultés de compréhension vont encourager les enseignants, s'ils les interprètent mal, s'ils les interprètent en disant « c'est parce qu'ils sont hyperactifs, inattentifs, non concentrés », qui vont reproposer strictement le même type de contrôle, « sois sage, écoute, tu entends ce qu'a dit machin, etc. » Et donc, plutôt que de rentrer par l'hypothèse de la compréhension, c'est parce qu'il ne comprend pas, donc je vais lui enseigner les compétences, ils vont rentrer par la régulation du comportement, « tais-toi, arrête, sois sage ». Et donc, se comporter exactement comme un certain nombre de parents, et donc ne pas régler le problème de l'autonomie et de l'autorégulation. Ça va? Et du coup, ce déficit d'autorégulation qu'on constate à l'entrée à l'école maternelle ne va faire que croître et embellir au fil de l'école maternelle, primaire, secondaire. Et là, je vais vous parler... Pardon, excusez-moi pour 2E, c'est un reliquat de mon expérience suisse. 2E, grande section. Alors, de fait, c'est la thèse de Christophe Joigneau qui fait partie du groupe de recherche ESCOL et qui fait partie du réseau RESEDA. Et j'ai pris ce protocole chez lui et je vous demande de... Voilà, je vais vous le lire. C'est un protocole... donc, c'est juste avant la récréation. Le maître décide... En attendant, le maître met en place un petit jeu de devinettes à propos de la famille des animaux qui ont des ailes. Et il dit « Citez-moi des animaux qui ont des ailes ». Il se trouve que tout le monde est sorti de la classe. Il ne reste plus que Nadia, Kunal et Fatoumata. Donc vous voyez qu'ici, le choix de l'enseignant, c'est plutôt que de sortir en paquet dans la cour de récréation, les élèves sortent un par un quand ils ont donné la bonne réponse à la question. Vous êtes d'accord aussi pour dire que c'est une tâche de catégorisation et qu'il s'agit d'avoir beaucoup de vocabulaire. Et vous voyez comment, quand le premier a parlé, le mot est interdit, j'avais oublié de le dire, et que du coup, plus, s'il y en a un qui dit pigeon, on n'a plus le droit de dire pigeon. Bon, c'est logique. Du coup, quand on a 30 élèves dans la classe, il faut être ou super rapide pour sortir, ou super connaisseur. Si on n'est ni connaisseur, ni super rapide, on reste dans la classe. Nadia. Voilà ce qui se passe. Nadia dit « les éléphants ». Et le maître dit « non, j'ai dit des animaux qui ont des ailes ». Dumbo. Dumbo. Mais non. Mais non. Qu'une... Ça, si c'est tellement génial que j'y avais même pas pensé. Mais c'est génial. Mais il en a qu'un. Or, le prof a dit « les ». Mais c'est génial. Donc, Kunal dit un coucou. Le maître dit oui. Et Nadia répond un coucou. Le maître dit non, Kunal vient de dire. Nadia se met à rire. Réaction qu'on peut interpréter de deux manières, la gêne ou la connivence avec l'enseignant ou les deux. Fatoumata répond un hibou. Coucou hibou, l'association, elle est parfaite. Oui, très bien. Il ne reste plus que Nadia et Absa. Un hibou ? Elle n'a pas compris que son maître avait de la mémoire. Mais non, Nadia, c'est déjà dit. Et là, elle dit, oui, mais moi, je ne sais pas. Moi, je connais qu'un tout petit peu. Moi, je pleure. Et le maître répond, bon, allez, c'est pas grave, tu peux y aller. C'est pas grave. Non, certes, c'est pas grave. Hein. Savoir quel animal a des ailes, au fond, c'est pas très grave. Mais... voilà, des expériences qui, à elles seules, ne semblent pas bien graves, mais des expériences qui, quand elles se répètent, vont participer, pour moi, à créer un certain nombre de comportements scolaires qui risquent, à terme, d'être très dommageables. La suite. On va jouer au jeu de la grande famille. Vous devez trouver le nom d'un légume ou d'un fruit, même classe, hein, vous avez compris. C'est un autre jour. Un nom d'un légume ou d'un fruit qu'on peut manger cru et cuit. Quand vous aurez trouvé une bonne réponse, vous pourrez aller dans la cour. Mais si une idée a déjà été dite, on ne doit plus s'en servir. Nadia dit un gâteau. Elle reste encore là, Nadia. Non. La salade. On l'a déjà dit. Il a vraiment de la mémoire, le mec. Oh, pas de chance. Trouve autre chose. Ça ne manque pas. Kiwi cru et cuit. Vous voyez que le prof est sympa derrière. Il dit oui, tu as raison. On peut faire des gâteaux au kiwi. C'est-à-dire qu'il interprète la réponse du gamin, donc il sort. Ne reste en jeu que Nadia et Anastasia, les autres ayant trouvé une bonne réponse. Les pommes. Ah non, on l'a déjà dit. Des cerises. Non, on l'a déjà dit. Réfléchissez à ce que vous avez mangé ces derniers jours. Ça aide pas, ça. Hein. Nadia, j'ai chaud. Nadia rit, j'ai chaud. Vous voyez, le chaud, c'est quand le relais est passé au corps. Ils ont chaud, ils ont sommeil, ils ont envie de faire pipi, ils toussent, ils s'endorment, etc. Ça va ? Ils peuvent plus, là. Allez, Nadia, qu'est-ce qu'elle fait, maman, avec la viande ? Des frites. Ah ouais. Donc, des pommes de terre. Ah ouais, mais c'est pas cru. Phrase totalement erronée. Hein. Ça ne se mange pas cru. C'est ça qu'il veut dire. Des glaces ? À quoi ? Vous voyez ce guidage-là ? On perd la tâche. À la fraise. Mais fraise, on a déjà dû le dire. Et puis à quoi ? À la pomme. Et on remonte là-haut. Hein. On l'a déjà dit. À la banane, à la salade. Elle essaye tout. Bon, allez, je vais t'aider. Est-ce que tu connais un fruit rond comme une boule et orange? Mais ça te fait penser à quoi? C'est une glace. Ça me rappelle... L'autre, une patate? Non, pas une patate, c'est jaune. On en a bu ce matin du jus, des bouteilles de... Ah, des bouteilles d'orange, dit la petite. Donc le fruit, c'est... Des bouteilles d'orange. Oui, mais le fruit... Bon, de quelle couleur sont les oranges? Jaune. Bah, ce serait pas des oranges. Bah si. Alors des oranges. Oui. Vous êtes d'accord que ça sert à rien tout ça, là? Ok. Je peux partir? Elle sait même pas qu'elle a trouvé, la gosse. Oui. Nadia est seule. Orange? C'est un fruit tout jaune? Non. Qu'est-ce que tu connais comme légumes? On était à fruits, il abandonne légumes. Les céleris? Et à part ça, c'est génial, hein? Légumes, crus et cuits. Sauf que le prof, il le sait pas. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tout le temps mon frère qui connaît. Bon, tu peux partir. Donc elle repart avec, j'ai encore rien compris. Sauf que les céleris, c'est parfait, hein? Ok. Je précise, son père tient une épicerie. Ça va, ça? Ok. Donc, des expériences qui, quand elles se répètent, oui, mais moi, je sais pas. Moi, je connais qu'un tout petit peu. C'est tout le temps mon frère qui connaît. Bon, tu peux partir. Bon, allez, c'est pas grave, tu peux y aller. Eh ben, si, c'est grave. Moi, je me dis que c'est grave parce que là, Nadia, elle demande, elle dit « je sais pas », elle dit « c'est mon frère » et on lui dit pas « attends, arrêtons-nous 5 minutes, viens, allons-y, prenons un imagier, allons-y, toi et moi, on va chercher, ça a été dit, on y va, la banane, ça a été dit, et ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Bon, le dommage, c'est céleri quand même. Bon, encore une fois, là, pas d'accusation des enseignants, on y va, on est dans le quotidien, on est dans la rapidité de l'action, on fait ce qu'on peut, mais là, on voit comment pour Nadia, il me semble que on a là un vrai problème. Et le « tu peux y aller », oui, certainement, mais avec quelle connaissance supplémentaire? Et avec quel sentiment de compétence scolaire? Et avec quel sentiment de pouvoir faire confiance à son maître pour enseigner les connaissances manquantes? Pour moi, ces deux phrases qu'elle prononce, « je sais pas, moi, je connais qu'un tout petit peu, c'est tout le temps mon frère », ça appelle quand même l'enseignant à transmettre quelque chose. Et au fond, la chose qu'on lui dit, c'est pas grave. Ben, pour moi, c'est grave. Autrement dit, conclusion, les tâches et les activités proposées aux élèves requièrent des savoirs, ici des connaissances, des savoir-faire et des compétences qui méritent de faire l'objet d'un enseignement en tant que tel, et que le fait que la réitération d'expériences et la réalisation de tâches développementalement pertinentes, si elles sont efficaces pour une grande majorité des élèves, elles ne le sont pas pour tous. C'est-à-dire que certaines expériences méritent qu'on y fasse un traitement particulier pour aider les élèves à mieux traiter et à mieux fonctionner dans ces tâches. Exemple, test à l'entrée du CP, reconnaissance de mots écrits. Je vous laisse regarder. Moyenne de 400 élèves en zone d'éducation prioritaire, à l'entrée au CP, 4 mots. Les 4 mots, en l'occurrence, quand c'est papa, maman, le prénom, et quand tout va bien, Coca-Cola. Ce qui a mis... On a fait ça en stage de formation continue, charnière, grande section maternelle, CP. Ce qui a vraiment déprimé les enseignants de maternelle, c'est mardi. Comment expliquer qu'après avoir fait la date tous les matins de la toute petite section jusqu'à la grande section, eh bien, les élèves ne savaient pas reconnaître mardi? Et pour moi, l'hypothèse que je fais par observation des pratiques, c'est qu'il n'y a pas d'incitation au traitement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux élèves de mémoriser explicitement la suite orthographique des lettres. Et on compte vraiment sur la réitération de l'expérience pour que les élèves, à terme, eh bien, fasse spontanément ce travail de mettre en mémoire la suite orthographique des lettres. Ces données montrent que c'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas pour vous non plus. Et je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu en conférence, c'est l'exemple que je donne toujours. À un moment, nous avions en France 3 voire 4 otages, soit au Liban, soit en Irak, soit en Afghanistan. Et tous les jours, à la radio, à la télévision, on nous disait « machin, machin et machin sont toujours otages au Liban, sont toujours otages en Irak ». Et à ce moment-là, maintenant, c'est plus trop le lieu, mais je disais à mes stagiaires « mais alors, comment ils s'appellent ?» Et on avait bien la moitié de la salle qui n'en avait pas la moindre idée, après l'avoir entendu 4 fois par jour pendant 70 jours. Ce qui montre bien qu'à un moment, il y a un traitement à faire, la volonté de mettre les choses en mémoire, qui n'est pas automatique. Et un certain nombre d'élèves le comprend, c'est-à-dire va profiter de ces interactions pour mettre en mémoire, quand d'autres vont se contenter de traiter en surface. Et ils le payent. Et l'incitation à la mise en mémoire, pour moi, elle n'est pas encore dans les pratiques des maîtres. Et donc, on compte sur le fait qu'ils vont voir mardi 350 fois et qu'ils vont le mettre en mémoire. On montre que pas. Donc, pas cette incitation au traitement. On fait voir les mots aux élèves et on postule qu'ils vont les encoder. On explique les mots aux élèves et on postule qu'ils vont les mémoriser, qu'ils vont mémoriser la définition et les mots. Et l'expérience montre que ça n'est pas le cas de tous les élèves et que certains élèves ont besoin d'une mise en alerte particulière, d'une incitation particulière, d'une révision particulière pour effectivement mettre ces choses en mémoire. Et dernière étape, on n'enseigne pas, selon moi, les moyens qu'il faut employer pour les mémoriser. Et il y en a. Et il y en a. Et le but de Scripto, par exemple, dont je vous parlais, c'est vraiment leur enseigner ces moyens, ces stratégies qui vont rendre la mémorisation beaucoup plus efficace. Et donc, on compte sur eux pour faire. Et ce qu'on constate, c'est que pour compter sur eux, il faut qu'ils puissent être autorégulés. Vous comprenez ce cycle infernal ? Pour comprendre qu'il faut se mettre à apprendre et à mémoriser, il faut être très régulé. Et évidemment, c'est toujours les mêmes qui vont faire et les mêmes qui ne vont pas faire. Je vous donne cet exemple. Mireille Brigodiot a sorti en 2001 un magnifique outil qui s'appelle « Apprentissage progressif de l'écrit à l'école maternelle ». Je ne sais pas si vous devez connaître, publié par Hachette. Et à un moment, elle utilise un texte qui s'appelle « Sissi la souris ». Et je vais dans une classe qui utilise le matériel de Mireille Brigodiot, le but étant chez Mireille Brigodiot, avec Sissi la souris, non pas de travailler les mots, mais bien la compréhension. Peu importe, la maîtresse qui fait Sissi la souris dans sa classe, qui utilise Sissi la souris, demande cette tâche aux élèves, propose cette tâche aux élèves. Et si vous deviez lui assigner un objectif à cette tâche, vous diriez quoi ? Quel est le but ? Vous avez vu, le modèle est en haut, et il faut entourer les mêmes que le modèle. Quel est le but ? Reconnaissance visuelle, globale ou pas ? Globale ou pas ? Ah non, mais ça, globale ou pas ? En l'occurrence, c'est global. Et se servir d'un modèle, comprendre qu'il faut entourer les mêmes que le modèle, mais on peut s'attendre quand même à ce que, si on fait faire cette tâche aux élèves, ils vont reconnaître et produire. Et que donc, s'ils ont appris à reconnaître, s'ils ont appris à reconnaître, non pas de manière globale, mais de manière analytique, ça va ? Analytique, SI2SI, alors ils devraient être capables de produire. C'est globalement le but, hein. Sauf que vous avez raison de dire qu'ici, c'est totalement global. Et quand je demande, quand les élèves ont fini, alors ils ont fait juste, à quel prix ? Ils entourent un, celui-là, puis lui, ils en oublient. La maîtresse dit, ah, tu en as oublié, ils y retournent. Ils cherchent, ils en entourent un, ici, j'ai fini, non, tu en as oublié, retourne, et ils entourent lui, ça va ? Une fois que c'est fait, c'est bien fait. Avec certaines erreurs, des zizi entourés, bon, passons. On corrige, tout va bien. Je demande aux élèves par la suite, écris le prénom de la souris. Un tiers y arrive, deux tiers y arrivent pas. Qui y arrive ? Ceux qui spontanément ont procédé à un traitement analytique, terme à terme, et sont capables de produire, les deux tiers, ne font qu'une reconnaissance globale avec le modèle sous le nez. Ils n'ont qu'à faire rien, faire correspondance, mais ils n'ont pas profité de cette activité pour mettre en mémoire la suite orthographique des lettres. Parce que personne ne leur a dit qu'il fallait le faire, y compris pas la maîtresse, qui elle-même n'aurait pas fait cette tâche-là. Ça va ? Je continue. Donc ça, j'en ai parlé. Je continue. Alors, je synthétise, mais j'en ai déjà parlé. Des pratiques d'enseignement différenciatrice. Bon, mais ça, j'en ai parlé, je passe. Alors, je synthétise ici. Vous admettrez avec moi que la réussite scolaire dépend de connaissances spécifiques acquises. Connaissances spécifiques, j'entends connaissance des lettres, connaissance de la suite numérique, compréhension de la de texte, etc., etc. Bref, conscience phonologique, etc., etc. Des compétences relativement générales, dans lequel je mets langage. C'est-à-dire que ce langage va être impliqué dans la majorité, dans toutes quasiment, les situations scolaires, quelle que soit la discipline. C'est pour ça que je parle de connaissances relativement générales, telles que le langage, l'ordre, le temps, la comparaison, la catégorisation, la sériation, qui sont requises à l'école maternelle sans arrêt et qui, selon moi, ne font pas vraiment l'objet d'un enseignement et dont pourtant dépend beaucoup l'autorégulation. Je vais y revenir. Donc, connaissances spécifiques, pour moi, c'est celles qui sont attachées aux disciplines, la conscience phonologique, la connaissance des nombres, est relativement générale. Elle dépend aussi, cette réussite scolaire, de l'acquisition et la mise en œuvre de stratégies et de procédures, de la qualité du fonctionnement et de l'autorégulation. Et on va voir comment l'école transmet plus ou moins certaines de ses compétences, et je vais beaucoup m'attacher aux compétences relativement générales. Si je reprends le titre de mon intervention, itinéraire de recherche, c'est autour de celle-ci que je me suis beaucoup attelée au début de mon travail. Dépend de l'attention et de la concentration, bien sûr. Alors maintenant qu'on a ça, je vais parler de ma deuxième question. Donner plus de quoi ? J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont en moins, ces élèves, facteurs personnels ? Maintenant, je vais m'intéresser au plus de quoi et je vais associer à ce plus de quoi le donner comment. Donc, je vais travailler sur les deux aspects, donner plus de quoi à ceux qui ont moins de quoi et le donner comment. Et je vais parler ici, maintenant, de notre conception du développement et de l'enseignement. Quand je dis notre conception, c'est celle que nous avons développée avec Paour au cours de ces dernières années. Notre objectif, c'est l'amélioration durable, généralisée et autonome de l'adaptation aux exigences scolaires, professionnelles et sociales. Autrement dit, notre conception du développement, c'est une conception qui vise à terme, et pas comme prérequis, l'autorégulation cognitive. Parce qu'il n'y a qu'un pas à faire pour dire que puisqu'une partie des élèves sont capables de s'autoréguler dès le début de l'école maternelle, alors c'est une compétence qui est là. Nous défendons l'idée que cette autorégulation cognitive n'est pas un prérequis des apprentissages, mais une conséquence. Et donc notre objectif, c'est celui de développer l'autorégulation. Par quels moyens ? Par quels moyens ? Non pas en entrant par le comportement des élèves, vous l'aurez compris, mais en entrant par la conceptualisation, c'est-à-dire en entrant par la compréhension. Profiter de toutes les situations d'enseignement pour centrer l'attention des élèves, non pas sur la réussite, mais bien sur la compréhension, sur l'abstraction de relations, sur l'abstraction de stratégies, sur l'abstraction de procédures. Et donc notre centration, elle n'est jamais sur la réussite, elle est toujours sur la compréhension. C'est le moyen. Par quelle méthode ? Et c'est là qu'il faut être, c'est pour ça, là pour moi, c'est là que les enseignants ont vraiment besoin de l'aide de concepteurs que vous êtes, que nous sommes, pour les aider à comprendre comment on peut passer d'une pédagogie centrée sur la réussite, la bonne réponse, à une pédagogie centrée sur la compréhension. C'est compliqué. Voilà pourquoi il me semble que c'est notre travail collectif d'opérer cette bascule. La première idée, elle est triviale. C'est placer la compréhension au centre du dispositif d'enseignement. Jusque-là, tout le monde peut être d'accord avec moi. Je parle de compréhension au sens large, hein, pas seulement compréhension-lecture, même si la compréhension-lecture en fait partie. Et c'est surtout ça qui est compliqué, construire des situations d'enseignement qui sont propices à la compréhension, qui vont centrer l'attention des élèves sur la compréhension, bien plus que sur la réussite. Et ça, c'est pas simple. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est là que les enseignants ont besoin de nous et de vous. Ça va toujours ? Je suis pas docteur, mais c'est que je vais passer à la diade après. Hein. Alors, pourquoi placer la conceptualisation, la compréhension au cœur de la pédagogie de l'école maternelle ? D'abord parce que c'est utile et nécessaire. C'est-à-dire que seules les compétences qui ont été comprises par les élèves sont transférables. Celles qui n'ont été que traitées en surface, qui n'ont été que réussies, eh bien celles-ci ne sont pas transposables. C'est utile. Autre idée, c'est le moment. C'est le moment. Ils ont toutes les possibilités de comprendre ce qu'ils savaient réussir. Donc c'est vraiment un moment propice. Je ne suis pas du tout favorable à l'idée qu'il y a des périodes critiques, mais en attendant, ce qu'on sait, c'est que dès 3 ans, les élèves sont capables de conceptualiser. C'est le rôle de l'école, vraiment. C'est une manière pour nous et pour les enseignants de ne pas confondre la réussite et la compréhension. Et c'est une manière de prévenir et de réduire les différences entre elles. C'est utile, c'est nécessaire. Et je vais prendre l'exemple de la comparaison. Comparer efficacement pour savoir abstraire des relations. La comparaison, efficace va permettre de conceptualiser les relations de catégorisation. Autrement dit, catégo. Trop vite, catégo. Mais si on veut pouvoir catégoriser efficacement les objets, alors il est indispensable d'être un excellent comparateur. Et si on n'est pas un excellent comparateur, eh bien, on ne peut pas catégoriser. Je vous demande d'observer ceci et cela. Si vous êtes un excellent comparateur, vous allez commencer par dire « c'est pas pareil » et vous allez vous centrer sur les différences. Ça, c'est un stylo, ça, c'est un verre. L'un sert à écrire, l'autre sert à boire. Mais, puisque vous êtes excellent comparateur, vous allez dire « d'accord, c'est pas pareil, mais il y a des points communs. C'est transparent, l'un et l'autre. Et les deux contiennent un liquide. » Si vous êtes un très mauvais comparateur, vous dites juste « c'est pas pareil, il y a un stylo et il y a un verre ». Et si comme question par la suite je vous dis « quelle est la propriété que les deux ont en commun et que vous n'avez plus les objets sous les yeux », vous êtes incapable de trouver les points communs parce que votre prise d'information initiale a été insuffisante. Vous voyez pourquoi une comparaison efficace qui abstrait des relations, c'est aussi abstraire des propriétés, propriétés communes, propriétés différentes. Et ça, c'est crucial tout au long de la scolarité. Et je persiste à penser que cette activité de comparaison, elle est requise dans toutes les situations scolaires, je vais le montrer par la suite, elle n'est pas enseignée. Et donc, quand on fait catégoriser, par exemple, à l'école maternelle, je ne parle pas de ceux qui ont la bonne idée d'utiliser catégo, c'est surtout pour dire « c'est pas pareil ou c'est pareil, ça va bien ou ça va mal », on a peu d'occasion de se délester d'objets qui ne vont pas bien, on met tout ce qui va bien ensemble dans une boîte, tout ce qui va mal ensemble, etc. Mais globalement, on travaille sur la catégorisation, peu sur cette compétence qui est cruciale, c'est la comparaison. Je poursuis. Elle est aussi requise dans les relations ordinales. Là, je parle maintenant d'ordo, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en ordre, il est indispensable de pouvoir comparer. On ne peut pas mettre en ordre si on n'a pas comparé avant. Et là encore, on fait souvent ordonner les élèves sans avoir appris aux élèves à comparer efficacement. Comment on s'y prend pour comparer? Comment on s'y prend pour serrer? Ça va? Et si je parle de ça, je suis bien sur mes compétences générales. Et je montrerai par la suite comment, à la fois, ces relations catégorielles et ces relations ordinales, qui dépendent en amont de la capacité à comparer, sont requises dans une grande variété d'apprentissages scolaires. Et si on vous montre, si je vais montrer comment, si cette comparaison-là n'est pas menée systématiquement avec les élèves, c'est-à-dire cet enseignement de la compréhension de la comparaison, puis de la catégorisation, puis de l'ordre, eh bien on voit qu'un certain nombre d'élèves vont être mis en difficulté parce que ces compétences générales transversales ne sont pas comprises. Si je reprends l'idée d'une aide conceptuelle aux apprentissages scolaires, c'est-à-dire que pour une aide conceptuelle au service des apprentissages scolaires, la compréhension de la catégorisation, de la comparaison, de l'ordre au service des apprentissages scolaires. Première étape, il importe que les élèves comprennent le concept de transformation, l'abstraction de ressemblance et de différence, donc la comparaison. Parce que cette affaire de ressemblance et de différence est impliqué dans l'appartenance catégorielle et ici, par exemple, sur la différence et la ressemblance entre des syllabes et des phonèmes. Ça, c'est de la catégorisation. En quoi « be » et « de » c'est un peu pareil? Pourquoi « ma » « ta » c'est un peu pareil et pourquoi c'est un peu différent? Découper finement les productions sonores, ça, c'est de l'ordre. Essayez de trouver tous les phonèmes de « renard », il va falloir décomposer la chaîne orale en phonèmes. Là, on est en train de parler de séquentialité et d'ordre. Et on voit bien comment la catégorisation et l'ordre sont requises pour le développement de la conscience phonologique. Je dis l'ordre, vous avez dû voir 50 fois ces séances en maternelle où on dit à l'élève « qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a avant ?» et les élèves n'ont rien compris à cette notion d'avant-après. C'est Acli qui dit « moi, mon prénom commence par un A, bravo ». Après le K, après le L, il y a le K. Donc cette difficulté à comprendre ce que c'est que l'avant, l'après, l'entre, au milieu, ça commence, ça débute, ça finit, ça termine, juste avant, juste après. Et c'est pourtant des compétences qui vont être requises. Je donne l'exemple de la conscience phonologique, c'est tout aussi crucial pour la compréhension en lecture. C'est le moment. C'est le moment pourquoi ? Et c'est là que je vais retrouver ce que je disais tout à l'heure sur mon désaccord partiel avec l'idée du conflit cognitif. C'est le moment parce qu'à l'école maternelle, tous les élèves, quel que soit leur milieu d'appartenance, disposent de nombreux savoir-faire et de nombreux savoir-dire. Mais Pour beaucoup d'élèves, leur efficacité, comme outil d'apprentissage reste limitée parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont capables de réussir, mais ils n'ont pas compris pourquoi ils réussissent. Ceux qui ont lu Catégo savent combien il y a d'exemples dans Catégo, de ces élèves qui savent réussir une catégorisation, mais dès lors qu'on introduit un objet, eh bien, ils vont se faire piéger parce que justement, ils n'ont pas compris la logique de catégorisation. Je peux vous donner vite un exemple. Dans une boîte fermée par un couvercle, on met un lion, un loup, un hippopotame, un crocodile, et on leur demande de dire pourquoi est-ce que ça va bien ensemble. Et tous les élèves de 3 ans disent « parce que c'est des animaux ». Très bien. Et on leur dit « bon, alors est-ce que je peux mettre une girafe dans cette boîte ?» Et ils répondent « eh ben oui, hein, parce que c'est un animal ». Et là, on se dit, après je dis « est-ce qu'on peut mettre un avion dans cette boîte ?» Eh ben non, un avion, c'est pas un animal. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut mettre... Voilà, tout le monde se dit « c'est bon, ils ont tout compris ». Et là, on dit « est-ce qu'on peut mettre un lapin dans cette boîte ?» Ils font comme ça. « Oui, tu es fou !» Parce qu'il va se faire manger. Donc, vous voyez comment la logique de catégorisation vient se heurter à la logique des connaissances de la vraie vie. Et donc, on voit là qu'ils n'ont pas compris la logique de catégorisation. C'est-à-dire qu'au du moment où on dit « animal », eh bien, on doit y mettre tous les animaux, peu importe leur taille, leur couleur et leur machin. Ça va ? Donc, des outils très puissants qui leur permet de faire beaucoup de choses, mais qui sont limitées parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, ces limites se révèlent quand l'élève doit résoudre des tâches qui impliquent justement la représentation et la compréhension. Et on le voit par exemple dans une tâche qu'avait proposée Carmilov Smith, qui est une demande qu'elle fait aux élèves de maternelle, dessine un bonhomme ou une maison qui ne soit pas tout à fait un bonhomme. C'est génial cette tâche. Parce que pour faire quelque chose qui n'est pas tout à fait, il faut avoir une excellente compréhension, une très bonne représentation de la chose pour pouvoir lui faire subir des modifications. Et là, les élèves de maternelle, ils n'y arrivent absolument pas. Alors à la limite, pas tout à fait, ils le font un peu plus petit ou beaucoup plus gros, mais ils ne changent absolument pas ces propriétés qu'ils ont totalement automatisées. Donc, il faut avoir une très bonne représentation. L'importance de l'activité de comparaison, j'y retourne. Toute activité intellectuelle, simple ou complexe, commence par là. On compare, on abstrait des relations. Vous passez votre journée à faire ça. Les élèves passent leur temps à faire ça. Vous comparez les orateurs, par exemple, entre celui du lundi et celui du mercredi. Vous comparez les PowerPoint, vous comparez ceci, cela. Les élèves, dès que vous leur donnez une tâche, ils comparent. Je connais, c'est ça, facile, j'ai déjà fait, j'ai pas fait. Je connais, ça je sais, tout le temps. Toute la journée, dès qu'ils sont mis face à une tâche, les élèves comparent. Tant mieux. Ça leur permet d'avoir du connu, ça leur permet de traiter les tâches, vous leur montrez un truc qu'ils savent déjà un peu faire, et c'est une grosse aide. Mais toute la journée, les élèves comparent. Et on abstrait des relations. Bon, ça j'ai dit, c'est une opération extrêmement importante, parce que oui, elle permet d'identifier les différences et les ressemblances, c'est une évidence, mais elle permet aussi d'abstraire des relations entre les objets, et on peut donc ensuite, grâce à la comparaison, organiser, déduire, prévoir, produire, corriger, bref, comprendre. La comparaison, c'est vraiment l'étape première de toute tâche. Et l'abstraction de relations, pareil et différent, dépend très directement de la qualité de la comparaison. Pour savoir si c'est pareil et différent, eh bien, ou abstraire des relations entre les objets, ça va bien ensemble ou ça va pas ensemble, ça repose sur la comparaison. C'est une stratégie cognitive, je l'ai dit, mais sa mise en œuvre est optionnelle. Elle est donc à l'origine de différences très importantes entre les élèves. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que certains élèves sont d'excellents comparateurs quand d'autres sont de très piètres comparateurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des stratégies très déficitaires, qui vont prendre la surface de l'objet et pas toutes les propriétés, etc. Et donc là-dessus, pour moi, on a une compétence cible des enseignements de l'école maternelle très importante. Mais normalement, vous devriez me dire, oui, bon, mais d'accord. Parce que quand on regarde, c'est Paour qui a fait cette activité depuis qu'il a la retraite, il passe sa vie dans les classes, et il a regardé sur une année scolaire, en petite, moyenne et grande section, le nombre de tâches qui impliquaient la comparaison ou l'abstraction de relations, comme outil, et il s'est aperçu que 75% des tâches proposées par les enseignantes relevaient de la comparaison, 58% de l'abstraction de relations. Autrement dit, ce que je défends, c'est que la comparaison est extrêmement sollicitée à l'école maternelle. Elle est requise dans le traitement de 75% des tâches et je dis que ça n'est pas enseigné. La comparaison, l'opération, les stratégies efficaces, les procédures efficaces sont requises mais non enseignées. C'est-à-dire que les élèves savent comparer, réussissent pardon à comparer, mais n'ont rien compris à la manière dont ils s'y prennent pour comparer. Rien de rien de rien. Mais, j'ai dit, en général, le format des tâches proposées ne favorise pas une comparaison active et analytique, car il autorise leur résolution par une simple discrimination perceptive. Si, si. Une grande différence entre une comparaison globale et une comparaison analytique. L'exemple de Sissi montre qu'ils peuvent très bien traiter ça de manière globale sans jamais analyser. Et ils vont être bien gênés. Par la suite, je vous en ai fait la démonstration. Et pourquoi ? Parce que tout est sous le nez des élèves. Et si je vous demandais de retenir une seule chose de moi aujourd'hui, que j'aimerais que vous transmettiez à vos propres enseignants, c'est arrêtons pour toujours de mettre tout sous le nez des gamins. Cachons, masquons, dissimulons, obligeons-les à mettre ça dans leur tête. Obligeons-les à traiter, obligeons-les à fonctionner, fermons les tableaux, fermons les boîtes, tournons les feuilles, mais plus rien sous les yeux. Plus jamais. Si j'avais un autre conseil à vous donner, mais pas ça, c'est une discussion que j'ai eue avec les maîtres spécialisés de Clermont hier, enlevons tout ce qu'il y a au mur. Pour toujours. Mais je vous m'expliquerai de ça après. Quand les élèves peuvent se reposer sur une stratégie perceptive, ils ne sont pas incités à traiter le matériel de manière analytique. De conséquence, seuls les enfants qui ont spontanément tendance sans cesse à comparer efficacement se donnent les moyens d'abstraire les relations sur lesquelles la compréhension repose. Je reformule, seuls les élèves qui sont auto-régulés vont faire ce travail. Et d'autre part, la réussite ne permet pas de distinguer ceux qui ont compris de ceux qui doivent leur réussite à une comparaison globale. Exemple immédiat, si tout va bien. Voilà, exemple immédiat. Il fait ça, l'élève. Il a réussi, vous êtes d'accord ? Il sait comment il a fait pour réussir ? Il a vu. Il a compris ? On ne sait pas. On ne sait pas. Hein. En tout cas, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de comparer ? Comment il s'est pris pour comparer, etc. Il ne sait pas. Donc, l'enseignement explicite de la comparaison, de l'abstraction de relations est efficace. Ok, je ne veux pas là-dessus. Apprendre aux élèves à comparer de manière efficace, c'est-à-dire systématique. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner la comparaison de manière explicite ? Apprendre à comprendre. C'est déjà leur apprendre à explorer de manière systématique les supports de la comparaison. Et notamment la ligne. Et je reviens à la tâche de tout à l'heure qu'on a explicitée sur les CE1. Partir de la gauche sans sauter d'éléments, aller jusqu'au bout, passer d'une ligne à une autre, suivre les éléments un après l'autre dans l'ordre. Vous voyez le lien entre comparaison et ordre. Systématique, je l'ai dit, analytique. Analytique, c'est leur apprendre à identifier et à verbaliser toutes les dimensions sur lesquelles portent les comparaisons. Avant de les lancer dans la comparaison, dans l'activité, analyse de la comparaison, analyse des propriétés. Je vais donner des exemples très concrets par la suite. Analytique conceptuelle. Faire conceptualiser, c'est-à-dire faire comprendre ce que c'est qu'un modèle, à quoi il sert, comment il peut nous servir, comment on peut s'en passer, à quelles conditions on peut s'en passer, comment on va faire pour s'en passer. Et puis, les comparateurs. Qu'est-ce que c'est que pareil, que presque pareil, que proche, que différent, qu'un peu différent, qu'identique, semblable, ressemblant, sembliationniste. Ça va ? Apprendre à faire des hypothèses sur l'objectif de la tâche en fonction du modèle et des cibles. C'est génial, ça. Je vais vous donner un exemple tout de suite après. Vous avez un modèle, à votre avis, ça va être quoi l'activité ? Ça va être quoi les cibles ? Vous avez ces cibles ? Qu'est-ce que ça peut être le modèle ? Mais jamais les deux en même temps. Cassons-nous la tête. Stratégique. Faire comprendre aux élèves l'intérêt de comparer efficacement. Pourquoi quand on a des nouvelles stratégies ? Pourquoi quand on a des procédures efficaces ? Pourquoi c'est si génial ? Et autorégulé. L'objectif, c'est qu'à terme, ils soient capables de comparer efficacement, toujours, sans vous. Enfin, sans les enseignants. Quatre dispositifs que je vais présenter. Le premier, comparaison successive. Là, je rentre dans le côté pratique de ces conceptions-là. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux élèves à comprendre la comparaison ? Petit 1, comparaison successive. Petit 2, apprentissage et consolidation du suivi ordonné d'alignement. Petit 3, démasquage progressif. Petit 4, comparaison recto-verso. C'est bon ? Je vais juste prendre le premier exemple, parce que je vois qu'il est moins le quart. Je ne voudrais pas que vous fassiez la queue à la cafétéria. On poursuivra cet après-midi. Mais notre truc, empêcher qu'ils voient. Pour favoriser un traitement analytique. Ah mince, c'est mes exemples. J'aurai pas le temps. Je vous dis juste pourquoi empêcher qu'ils voient. Je travaille avec Kazou, 7 ans, 8 ans, 3 CP. CP blanc, première année, CP blanc, deuxième année, CP blanc, troisième année presque. Il est à mi-temps dans ma classe spécialisée, à mi-temps en CP. Et il fait pique-bille. Et la maîtresse dit, mettez vos crayons sur les cartons éclairs. C'est bon pour vous ? Il est devant, collé au bureau. Donc il voit rien. Il voit pas les autres. Et la maîtresse commence. Deux. Et Kazou commente. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pigby, avec ton masque de Zorro ? Oh, je vais te faire un Z sur ton ventre. Ah, zut, à l'envers. Ah, maîtresse, je suis trempée. Qu'est-ce qu'il y a une gomme ? Maîtresse, je suis trempée. Qu'est-ce qu'il y a une gomme ? Il refait son Z dans le bon sens. Bah, maintenant, je vais faire ton épée, Pigby. Blablabla, il fait son épée. Okay. Et là, la maîtresse dit, c'est bon, c'est fini. Oups, alerte métacognitive. Kazou comprend bien qu'il ne fallait pas vraiment faire ça. Donc, Kazou regarde, prend l'information. Il regarde derrière, c'est là l'information chez les copains, et il voit qu'ils ont travaillé en haut. Et là, il étudie finement, attentivement le matériel, il regarde très longuement, et sous les cartons, il fait de la petite pluie. Parce qu'il y a des éclairs, parce qu'il y a des étoiles, c'est donc des nuages. Vous voyez comment ce matériel, là, eh bien, il empêche Kazou de raisonner. Ça va ? Regardez donc. Il n'y a que ça sur la feuille. Un implicite énorme. Vous avez compris ce qu'il faut faire ? Il y a un modèle qui est donné par le rouge. C'est le modèle. C'est pour ça que je disais le concept de modèle, il est énorme. Et on se dit, bah ok, on a compté les ronds, il y en a 8. Je vérifie, il y en a 8. Donc, il faut compter les carrés et les dollars. Ça va ? Réponse de Omar. Alors là, normalement, les enseignants spécialisés, s'il y en a dans la salle, ils font « Ah, trop chou !» Ah oui, trop chou, mais trop faux. Omar n'a pas compris qu'on était en maths, il fait du dessin. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se moque totalement du cadre du haut. Vous êtes d'accord ? Il pourrait rendre ça exactement pareil s'il n'y avait pas le cadre du haut. De un rond de boule, enfin, un rond de rond, un carré de carré, un dollar de dollar. Et là, on se dit, mais punaise, mais comment ça se fait qu'il ne regarde pas ce qu'il y a en haut ? C'est bizarre. Bah non, Pigby, ici, il faut compter, ici, il faut écrire, ici. Donc, il y a des manuels où ce qu'il y a en haut, au milieu, à droite et à gauche, n'a aucun lien. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc quand Omar fait ça, c'est pas idiot. Je dis, y a aucun lien, elle a mis ça pour s'amuser, la maîtresse. Ça va toujours ? Pourtant, il compare bien, mais il compare mal. Juste ça, et après, je vous promets, on s'arrête. Là, on est bien dans une tâche de comparaison. Opération escarre. Opération, il pleut dehors, il n'y a pas de préau. Je mets mes élèves devant ça, je suis tranquille. Ils ne bougent plus. Bon, à vous, vous avez compris ce qu'il fallait faire ? Je vous lis le modèle, c'est au cas où vous auriez des problèmes de vue. Coloris, les formes, reconnaissance visuelle, ça aide l'enfant, c'est bien. Forme géométrique, reconnaissance visuelle. Coloris les formes identiques au modèle. Je précise qu'un pigeon est capable de faire ça, nous l'avons testé. Donc un pigeon qui a 2 de QI, non même pas, il est capable de réaliser cette tâche. C'est vrai. Et vous lui apprenez, il sait faire reconnaître les ronds des carrés. Autrement dit, n'importe quel élève d'école maternelle sait reconnaître. D'accord ? Mais c'est pas le but en fait. À part qu'il pleut dehors et qu'il faut les laisser assis longtemps, le but de l'enseignant, c'est évidemment de voir lesquels sont capables de balayer, explorer. Là. À vous avez tout compris, qu'est-ce qu'il faut faire ? Colorer les petits ronds, les petits rectangles, les grands triangles. Exactement les mêmes. Donc c'est pas colorer les formes identiques, c'est strictement identique qu'il aurait fallu écrire. Je vous fais pas faire la tâche. Non, mais vous comprenez aussi que les enfants s'ennuient quand même des fois. Ça s'ennuie ça quand même. Ok. Bon, je vous montre. Pardon. Ah, c'est pas lui, c'est lui. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il fait bon, on est d'accord, mais il n'est pas stratégique. Et je vous le dis, là, évidemment, il sait reconnaître, mais le seul problème de cette tâche, il faut être hyper stratégique, dans l'ordre, un par un, et ordonné, il n'y a pas. Et là, il va faire 50 allers-retours, t'en as oublié, ok, mais la fois d'après, on lui redonnera le truc, t'en as oublié, c'est-à-dire qu'il n'a pas profité de cette tâche pour apprendre qu'il fallait, pour comparer efficacement, balayer dans l'ordre. Vous êtes d'accord? Regardez ce que fait lui, c'est trop top. Bien vu, je prends les gestes de mon camarade, touc, touc, touc. Qu'est-ce qu'il dit qu'il faut comparer à droite et à gauche? Qui l'a dit? Qui? Sûrement pas Picbille. Justement, chez Picbille, il faut surtout pas aller voir à droite et à gauche. Surtout pas. L'autre, il va voir son Picbille, il est mort pour les cartons éclairs. Ben lui, c'est pareil. Eh ben du coup, lui, il se dit, bon d'accord, ils m'ont mis ça à droite et à gauche, c'est pour faire beau. C'est pas pour moi, ça. C'est génial, hein? Et lui, c'est le même, et lui. Et lui, il ajuste. On lui a pas dit strictement identique au modèle. Il prend tous les ronds, tous les rectangles et tous les triangles. Eh oui, il ajuste. Il a pas fait à côté. Personne a dit qu'il fallait faire la déco, là. Attendez, je vous montre juste ça. Ah, oh, je l'ai pas. Si, je l'ai, par exemple, ici. La déco. Elle est atroce, là. Ça, d'accord. Comparer des mots orthographiquement proches. Jumeau d'un mot. Faux, c'est pas jumeau, c'est le même. Sur chaque ligne, vous avez vu, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, ils ont mis ça, et donc ça incite vraiment à traiter comme ça, et il faut aller comme ça. Sur chaque ligne, retrouve le jumeau. Non, non, pas le jumeau, le pareil, mais ça fait rien. Jumeau, c'est nul, hein. Vous avez vu cette tâche? Et là, ce qu'il y a sur les côtés, il faut surtout pas regarder. Il y en a une encore plus belle, mais je l'ai pas là. Mais ça fait rien. Ça va? Alors, vous avez compris le bug, le problème, pardon. C'est quoi? C'est que oui, ils savent comparer, ils savent reconnaître. Tout leur problème vient de ce qu'ils sont pas stratégiques, ils savent pas comment il faut faire, etc. Et ce type de tâche, ça ne permet pas d'apprendre ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est grave à cause de ça. Parce que figurez-vous que ça, me feufeuteux, là, test de mesure de l'impulsivité de l'enfant. On mesure en psychologie, encore aujourd'hui, l'impulsivité de l'enfant à la capacité de résoudre ce type de tâche. C'est-à-dire, je prends le modèle, je le regarde et je suis stratégique. Et si vous êtes pas, vous n'avez pas appris à l'être, à un moment, vous allez complètement craquer, vous allez montrer un truc, on va dire « Ah, t'es impulsif !» Non, non, non ! T'es pas impulsif ! C'est juste que personne t'a appris comment on comparait efficacement. Vous êtes d'accord ? Cette tâche est géniale si on en fait une tâche de balayage, d'apprentissage de l'ordre. Si c'est juste reconnaître un nanana d'un nanana, mais non ! Maintenant, comprenons cela et puis passons à l'action. Chaque problème a toujours une solution.